et l'on retrouve Léonard de Vinci, tout simplement, puisqu'à l'occasion des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, le musée du Louvre conçoit et organise une grande rétrospective consacrée à l'ensemble de sa carrière de peintre, un ensemble unique à contempler à partir de demain et jusqu'au 24 février 2020. Nous sommes en compagnie des deux commissaires de l'exposition, Vincent Delieuvin et Louis Franck, et puis nous accueillons, pour parler de Léonard, Charles Dantzig. Bonjour.
Bonjour,
vous avez notamment publié un dictionnaire égoïste de la littérature mondiale. Vous vous êtes beaucoup intéressé à Léonard de Vinci et à ses écrits. Vous n'êtes pas le seul écrivain. Alors, il y a des exemples célèbres. Il y a notamment Paul Valéry qui a rédigé une introduction à la méthode de Léonard de Vinci. Il écrivait « Je ne pense pas pouvoir donner un plus amusant exemple des dispositions générales à l'égard de la peinture que la célébrité de ce sourire de la Joconde ». Que tirez-vous de la lecture de Vinci, pourquoi a-t-il autant passionné les écrivains ?
Je pense qu'il a passionné pour deux causes différentes. Valéry, c'était très probablement à cause de leur passion commune pour les mathématiques, car on sait que Valéry, très rapidement, et maintenant nous avons les cahiers de Valéry qui l'attestent et qui sont en très grande partie constitués de résolutions d'équations mathématiques. Il s'est pris pour une passion pour les mathématiques, alors que dans ses carnets, Léonard de Vinci lui-même dit à peu près, je le cite de mémoire, « Malheur à qui ne connaît pas les mathématiques ». Et de la part de l'un et de l'autre, il y a une chose assez intéressante, c'est qu'ils sont allés vers les mathématiques aussi, comme s'il y avait une forme de méfiance vers la sentimentalité que pouvait avoir leur art chacun, c'est-à-dire Valéry, la poésie et la fiction. On sait très bien que c'était l'homme qui détestait le roman parce qu'il voulait pas écrire des phrases aussi basses que la marquise entrait à 5 heures ou partit à 5 heures. Et peut-être qu'il y a ça aussi, une espèce de distance précautionneuse de la part de Léonard de Vinci dans cette passion pour les mathématiques. Il y a d'autre part dans ses carnets beaucoup, beaucoup de choses de technique et de techniques de peinture et même majoritairement il y a de ça, mais il y a aussi une quarantaine ou une soixantaine de pages qui sont très très intéressantes où il s'approche un peu plus de lui-même et il s'approche un peu, mais pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des phrases qui correspondent à cette passion pour les mathématiques. Il y a par exemple une phrase de lui qui dit « La passion intellectuelle met en fuite la sensualité ». Et on ne dirait pas qu'il le regrette. C'est-à-dire il le pose, lui, il a une passion intellectuelle et la sensualité s'éloigne un peu de là, ce qui fait comprendre probablement sa peinture qui est assez éloignée de la passion. Il y a une phrase d'un autre écrivain qui est Sigmund Freud dans Le souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, qui est ce si beau livre qu'il a écrit sur lui. Il dit « Il ne semble pas avoir connu ces passions impétueuses qui vous élèvent et vous dévorent et furent pour d'autres le meilleur de la vie ».
Justement, est-ce que c'est un mythe, Vincent Delieuvin, ce Léonard de Vinci, architecte, technicien de la peinture? Est-ce qu'il y a, aux côtés de cette technique qu'il théorise, on l'a dit, qu'il présente, est-ce qu'il y a un homme sensible que l'on voit peindre?
Alors cette sensibilité, je crois qu'elle est très sensible, elle est très visible dans ses dessins et dans sa peinture, et dans sa façon d'appréhender les histoires qu'il peint. Chaque fois qu'il aborde une nouvelle iconographie, une nouvelle image, on pourrait parler par exemple de la Sainte Anne qui a tant intéressé Freud, il y a une extraordinaire sensibilité pour l'expression humaine et pour la restitution de sa connaissance scientifique du monde. Dans le paysage de la Sainte Anne, on découvre cet amour de la nature, cette passion pour l'histoire de la terre, de cette lente sédimentation rocheuse, de cette lutte aussi des éléments entre l'eau et la terre, et il y a cette restitution aussi d'émotions extrêmement subtile, et notamment celle de la Vierge qui est au cœur du tableau, entre mélancolie et joie, et qui montre vraiment la profondeur de l'enquête de Léonard menée sur l'être humain à travers dissection, étude de l'expression, des proportions du corps humain. Donc cette sensibilité, elle émane de toutes ses œuvres.
Et alors si on le compare, Charles Dantzig, à un autre peintre qui a écrit, je ne sais pas moi, Michel-Ange par exemple, qu'est-ce que cela donne si on compare Vinci et Michel-Ange?
Là, la différence des écrits est frappante. Les deux écrits étaient des écrits chacun par devers soi, c'est-à-dire que les carnets de Léonard étaient pour lui et les lettres de Michel-Ange étaient adressées à des correspondants particuliers et ses poèmes étaient à un destinataire qui sont restés privés pendant très longtemps. Donc c'est le même statut d'œuvre et la différence est quand même considérable. C'est-à-dire que il y a dans la littérature de Michel-Ange un élan et une passion qui ne se trouve pas, ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre, mais qui ne se trouve pas chez Léonard du tout. Il y a, et là ça vient aussi de leur façon de vivre, l'un et l'autre étaient homosexuels, on le sait, mais ils n'avaient pas une manière de le vivre aussi semblable.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que
Léonard a été
c'est-à-dire que Léonard
pourchassé pour cela, voilà. Accusé d'homosexualité, il a échappé de peu à la prison.
Exactement, mais à part ça, il n'en est pas question dans aucun de ses écrits. On aurait pu trouver, comme on a trouvé...
Une petite allusion.
Il n'y a pas l'équivalent des poèmes de Michel-Ange à Camilleri, où il imagine qu'il est un ver à soie qui tisse la soie d'un gant qui recouvrira la main de son amoureux. Enfin, il y a des prises de risque dans Michel-Ange et des élans qui sont très frappantes. Mais d'ailleurs, à la même époque, sans même besoin de la littérature, il y a des peintres qui, dans leur peinture, abordent des choses dans ce registre-là qui sont très frappantes. Il y a des fresques de Luca Signorelli à Orvieto où on voit qu'ils sont une espèce de farandole d'hommes nus. Michel-Ange n'était pas non plus tout à fait en retrait sur ce point-là. Et Léonard reste sur son quant à soi en permanence.
Il y a dans cette exposition, celle qui s'ouvre au Louvre, dont nous parlons, puisque nous sommes en compagnie de Charles Dantzig, l'écrivain, et les deux commissaires de l'exposition, Louis Franck et Vincent de Lieuvin, une manière de mieux comprendre les tableaux de Léonard de Vinci. Alors, il y a un procédé 3D utilisé pour la Joconde, et puis il y a aussi des réflectographies à infrarouge, une technique peut-être pour la présenter, Louis Franck, et nous dire ce qu'elle permet de comprendre à ces tableaux.
Oui, je voudrais préciser peut-être qu'à propos de ce qu'on a dit à l'instant, que je, évidemment, on ne remet pas en cause la thèse de l'homosexualité de Léonard. En revanche, il n'a jamais été persécuté. Ça, c'est faux.
Je l'ai lu dans sa biographie par Walter Isaacson. Oui,
il faut laisser tomber ça. Il a effectivement été accusé. Il est passé devant ce fameux tribunal des officiers de la nuit, devant lequel, si j'ose dire, tous les Florentins passaient. Mais il n'a pas du tout été. C'est un tribunal qui ne donnait que des peines financières, d'une part, et qui dont les juges avaient un arbitraire absolu, c'est-à-dire. Comme ça se passait sur dénonciation, la plupart du temps, les gens étaient immédiatement relaxés. C'est ce qui est arrivé à Léonard. Donc il n'a jamais été en prison, ça c'est vraiment un mythe.
Non, Isaacson ne dit pas qu'il a été en prison, il dit qu'il a été effectivement jugé pour cela.
Mais vous savez qui a été le premier, qui est passé le premier devant ce tribunal? C'est le gonfalonier de justice, c'est-à-dire le chef suprême de l'exécutif florentin qui avait fait passer la loi. Donc il n'y a pas de...
Ensuite, il y en a eu d'autres qui se sont trouvés dans ce type de situation.
C'est sérieux. C'était vraiment une manière aussi de ne pas appliquer des peines canoniques beaucoup trop lourdes. La réflectographie. Mais c'est une technique qui permet de mettre en évidence notamment ce qui contient du carbone à travers les couches picturales. Et donc, ça permet de visualiser dans la peinture de cette époque-là, sur panneau, on reporte un dessin qui est réalisé préalablement, qui s'appelle un carton. On reporte le carton et sur le panneau, sur la préparation du panneau, et ensuite, un artiste comme Léonard, lui, élabore de manière extrêmement complexe son dessin avant de construire sa peinture. Et les réflectographies montrent justement toute la richesse du dessin de Léonard et tout son travail expérimental. Il ne se contente pas de reporter sur le panneau le dessin préalable qu'il a conçu sur le carton. Là, je fais une petite parenthèse. Une des thèses de notre exposition est que Léonard n'est pas un peintre qui ne s'intéresse qu'à la conception, et qui s'arrête à la conception, et une fois que l'œuvre est conçue, s'ennuie à peindre et traîne indéfiniment. Mais au contraire, la conception étant trouvée assez rapidement, il ne cesse d'y revenir, et pendant des années et des années et des années, et l'exécution elle-même est absolument fondamentale, et elle est pour lui l'essentiel de ce que lui-même considérait comme une science suprême, supérieure à toutes les sciences, intégrant toutes les sciences, et qu'il appelait science divine de la peinture.
Charles Dantzig.
C'est-à-dire qu'on peut se demander si, d'une certaine façon, la passion chez lui n'est pas dans la technique. C'est-à-dire qu'il y a de si nombreuses pages dans ses carnets sur la perspective. Par exemple, il fait partie de ces peintres qui ont décidé que la perspective était la vérité, ce qui est une illusion comme une autre. On a décidé à un moment de peindre de telle et telle façon. Et il est tellement passionné par ça qu'on se dit qu'il a peut-être dévié la passion qu'il avait, ou le peu de passion qu'il avait, c'est très difficile de savoir s'il était réellement passionné ou pas, dans ses notations techniques d'une méticulosité telle qu'il s'en est fait un vrai monde.
On connaît des éléments biographiques assez précis d'ailleurs sur Léonard de Vinci, Vincent de Liévin. On sait qu'il a été un enfant illégitime, ce qui à l'époque n'était pas si rare que cela. Enfant illégitime, ça a été aussi un peu sa chance parce que comme cela, il n'est pas devenu notaire. Il n'aurait pas peint s'il avait été notaire. Quelques repères sur l'homme qu'a été Léonard de Vinci.
Alors effectivement, on a la chance de disposer de très nombreux documents d'archives, de témoignages sur Léonard de Vinci, ce qui nous permet quand même de comprendre un peu le personnage. Et effectivement, sans doute cette chance d'avoir été malgré tout un enfant illégitime, et peut-être, il le dira lui-même, d'avoir été un homme sans lettres, c'est-à-dire ne pas avoir reçu cette formation humaniste qui l'aurait peut-être enfermé dans les connaissances héritées de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Et du coup, d'avoir été un homme de l'expérience, quelqu'un qui a voulu vérifier, comprendre le monde par l'expérience, en l'observant. Et les dessins que nous montrons dans l'exposition en sont l'illustration absolument merveilleuse. Mais très rapidement, Léonard a quand même une double ambition, celle de devenir donc un immense peintre, mais aussi un théoricien, et aussi un homme de cour. C'est vraiment quelqu'un qui a toujours cherché tout au long de sa vie la liberté de ses recherches, une liberté totale aussi dans sa peinture, en se mettant au service des plus grands princes, ce qui lui permet de disposer d'une liberté totale. Socialement, Léonard, finalement, n'a jamais rien publié, n'a presque rien peint, et ses tableaux sont restés pour une grande partie inachevés, mais il a pu avoir cette liberté totale dans sa recherche et, d'une certaine façon, faire démonstration, malgré cet inachèvement permanent, de son génie absolument immense.
Charles Dantzig.
Il y a un point psychologique qu'on peut faire, je me méfie des enchaînements psychologiques qui ont l'air d'aller de soi, mais il y a un autre artiste fameux qui me vient à l'esprit, qui était fils de notaire et qui s'est révolté contre l'esprit notarial, c'est Voltaire. Donc peut-être qu'il y a quelque chose comme ça de « je suis fils de notaire et je vais cesser d'être aussi pragmatique et sérieux que mon père ».
Mais il a cherché également, Voltaire, à comprendre le monde. Il y a malgré tout chez Vinci, dans ses carnets, alors ses carnets vont être republiés en quarto, ça représente une somme extrêmement importante, c'est très impressionnant, on a l'impression qu'il s'est quasiment intéressé à tout en matière de physiologie, il y a des croquis de fœtus, il y a des croquis de muscles, il a cherché véritablement à comprendre comment était façonné le corps humain pour pouvoir le peindre, mais au-delà de ça, cette curiosité Louis Franck, elle est servie et elle est aussi service de sa technique.
Oui, elle est très certainement l'une des composantes de son idéal de peintre. Et c'est quelque chose qui apparaît dans la décennie 1480. On a les premières études de botanique et les premiers schémas de mathématiques et les premiers raisonnements mathématiques apparaissent à l'époque où Léonard commence à peindre la Vierge au rocher. Et on voit le même type de plante, notamment une très jolie, très belle violette sauvage dans l'un des carnets de l'Institut, qui est tout à fait du même style que les plantes qui poussent, qui croissent sur les roches.
Et on découvre
la Vierge au rocher. Et c'est le début d'une enquête systématique, effectivement, à travers laquelle on peut avoir l'impression que Léonard s'est perdu, mais l'unité de cette quête indéfinie reste malgré tout la peinture.
Charles Nanty.
En même temps, dans ses carnets, il y a une chose, il y a une toute petite phrase qui est fascinante et qui a l'air de contredire les 800 pages de technique qu'il empile et qu'il accumule, c'est qu'il dit « la connaissance ne vient que de la sensibilité ». Et je pense que d'ailleurs il a raison, même Paul Valéry qui était si froid, si pragmatique et qui pour éviter les épanchements du lyrisme disait qu'il n'existait que la rime, la rhétorique et la prosodie, à la fin, tout artiste je crois sait très bien et c'est bien la différence avec un savant et c'est pour ça que même si par moment Léonard dans ses carnets a un peu la forfanterie de dire « moi je suis un mathématicien, c'est-à-dire je suis mieux qu'un peintre », il sait aussi que c'est cette sensibilité qui lui apporte quelque chose de très singulier.
Et oui, on l'a dit, Vincent de Lieu Gauvin, c'est à l'âge de 30 ans que son identité de peintre n'était pas encore fixée. Il aussi, et il hésitait encore, Léonard de Vinci. Sa postérité, comment elle s'est construite? À partir de quand a-t-on considéré qu'on avait affaire non pas uniquement à un architecte, à un peintre, mais à une sorte de génie, peut-être même l'incarnation de l'homme de la Renaissance?
Finalement, assez tôt dans sa carrière, lorsqu'il est à Milan, au service du duc Ludovic le Mort, on commence dans l'atmosphère de la cour à écrire des poèmes qui célèbrent notamment les portraits des maîtresses du duc et dont les effigies ont été peintes par Léonard de Vinci. Et puis c'est vraiment avec la scène qu'il conçoit dans les années 1490, qu'il devient véritablement celui qu'on appellera le maître de la manière moderne. Le premier, justement, à ne s'être pas contenté de représenter les formes extérieures de la nature, mais l'intériorité de toutes les choses, aussi bien l'être humain, les sentiments, que les passions de l'âme, que la nature elle-même, qui est restituée dans sa peinture, dans toute sa complexité et aussi sa sensibilité. Ça, c'est une chose qui s'est construite et Léonard en était conscient et lui-même, physiquement, s'est donné un peu ce statut d'un homme qui était une sorte de peintre-philosophe, puisque vers la cinquantaine, il commence à se laisser pousser la barbe, les cheveux, et apparaît tel un nouveau Pythagore.
Louis Franck.
Oui, je dois ajouter que cette construction, la construction littéraire de Léonard, est l'œuvre d'un historien qui s'appelle Giorgio Vasari, qui a écrit au milieu du XVIe siècle un livre intitulé « Les vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes ». Et c'est Vasari qui fait de Léonard le premier artiste de la modernité et qui met notamment au centre de toute la construction logique de cet ouvrage, cette peinture, Lisa del Giocondo, qui est aujourd'hui si célèbre. Quand on nous pose la question de savoir pourquoi la Joconde est célèbre, il n'y a qu'une seule réponse, c'est à cause de cet auteur, à cause de ce texte de Vasari.
Et son utilisation, alors à la fois dans la culture, dans la pop culture, puisqu'il y aurait quasiment une autre exposition à faire, Vincent Delieuvin, sur la postérité de la Joconde en tant que telle, laquelle n'est pas dans l'exposition, elle reste à sa place, surtout qu'elle avait été légèrement promenée il y a quelque temps. Pourquoi cette postérité, cette utilisation de la Joconde?
Alors ça, vous savez, c'est un ensemble de faits qui ont provoqué... Giorgio Vasari, effectivement, à l'origine de ce mythe, mais après, effectivement, ça ombre d'événements, notamment la fascination de toute une génération d'hommes de lettres, Georges Sand, Théophile Gauthier, à la fin de la seconde moitié du XIXe siècle, qui sont émerveillés par la beauté et les côtés énigmatiques de ce portrait, dont le sourire, dont le sens du sourire reste complexe à interpréter. Et puis après, le vol de la Joconde, bien évidemment, en 1911, qui a beaucoup fait pour sa réputation mondiale, et les multiples réinterprétations d'artistes, et puis aussi, moins intéressantes peut-être, mais publicitaires, qui ont fait de ce tableau, au fur et à mesure des années, une sorte de mythe, et qui aujourd'hui, effectivement, est devenu tellement célèbre que nous n'avons pas pu la mettre dans l'exposition, puisque chaque jour, Mona Lisa reçoit 30 000 visiteurs, alors que nos lieux d'exposition ne peuvent accueillir que 7 000. Donc vous voyez, notre exposition ne peut pas recevoir la foule des admirateurs de Mona Lisa.
Charles Dantzig.
Mona Lisa, c'est aussi un phénomène de fétichisation assez simple qui arrive, hélas, pour de nombreux artistes. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a un peu l'impression que c'est l'ignorance qui se grève sur quelque chose d'artistique pour peut-être se flatter elle-même. Regardez comme le Petit Prince, qui est devenu un fétiche, le fétiche de l'œuvre de Saint-Exupéry, alors qu'il a écrit à côté de ça 20 livres. On peut pas chercher de raisons, enfin, on peut chercher intelligemment des raisons pourquoi peut-être elle est devenue si célèbre, etc. Mais il y aurait autant de raisons qu'elle ne le soit pas devenue. Et je pense que c'est un phénomène de fétichisation qui vient de gens qui n'aiment pas la peinture et qui se mettent à la regarder et qui créent des fétiches.
Alors, je l'ai dit, c'est une exposition absolument unique qui va s'ouvrir au Louvre demain jusqu'au 24 février. Elle est unique parce qu'on peut y découvrir 160 œuvres de Léonard de Vinci. Il a été particulièrement compliqué de les réunir. Vincent Delieuvin, on a parlé de diplomatie culturelle. Il y a eu de nombreuses discussions, presque des polémiques autour de ce sujet. Pourquoi cela? Qu'est-ce que là aussi ça recouvre autour du personnage de Vinci?
De son temps, déjà, Léonard de Vinci a été l'objet de la convoitise de tous les grands princes en Italie, puis même en France, puisque c'est François Ier qui a réussi à le mettre à son service à la fin de sa vie. Et aujourd'hui, c'est encore le cas, c'est-à-dire que les œuvres de Léonard de Vinci, effectivement, ont un statut tout à fait particulier, sont des mythes, et effectivement, souvent l'identité de l'institution qui possède l'œuvre de Léonard de Vinci, donc la difficulté était très grande d'obtenir dessins et peintures. Simplement aussi, il y avait la conscience que seul le Louvre est capable de faire cette réunion extraordinaire d'œuvres et d'expliquer la vie et l'œuvre de Léonard de Vinci. Alors effectivement, avec l'Italie, ça s'est politisé. Malgré nous, on n'a jamais souhaité cela, mais bon, ça s'est politisé. Mais heureusement, je dirais que ça se termine magnifiquement bien. Et nos patries frères, finalement, aujourd'hui, permettent qu'on ait cette merveilleuse collaboration. Et l'illustration la plus belle est la présence dans l'exposition de l'homme de Vitruve, qui l'icône des dessins, qui rejoint l'icône des peintures, la Joconde. Et qui enfin contextualiser et ainsi davantage compréhensible cet homme de Vitruve.
Et puis alors, en faisant l'inventaire, on s'est aperçu qu'il y avait des manquants. Il manque le Salvator Mundi. Il est où ?
Alors effectivement, tout n'a pas pu être réuni. Le Salvator Mundi a été demandé en prêt à son propriétaire. Ne me demandez pas qui c'est parce que je ne le sais pas.
C'est ça, on ignore qui est le propriétaire de ce tableau. On ne sait pas où il se trouve aujourd'hui non plus.
Je ne le sais pas non plus. En tout cas, nous, on est en contact avec les représentants du propriétaire. La réponse définitive n'a pas été donnée. Donc, on est toujours ouvert à la discussion. Mais on verra. Mais vous savez, l'essentiel de ce que l'on voulait dire dans cette exposition, la démonstration que nous souhaitions faire et la présentation publique de l'œuvre de Léonard de Vinci est là. Et le Salvator Mundi, présent ou absent, ça n'est pas bien grave. Ce qu'on voulait dire est dit.
Charles Dantzig, votre dictionnaire égoïste de la littérature mondiale est publié aux éditions Grasset. Et donc cette exposition Léonard de Vinci qui s'ouvre demain au Louvre jusqu'au 24 février prochain, allez-y, c'est sur réservation parce qu'on attend beaucoup de monde au vernissage. Il y avait déjà énormément de monde, j'y suis allé hier avec Aurélien Bélanger, il cachait les tableaux, il a failli y avoir des scènes d'émeute parce que Aurélien avec sa grosse doudoune se mettait devant et c'est du coup il cachait les tableaux. Heureusement, cela s'est pacifié.